So before beginning, I want to apologize to make my talk in French, but I think it's more comfortable for all, and especially for me. And I promise I speak very slowly. Je vais me présenter. Je m'appelle Cécile Calou. Je suis enseignante-chercheure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et je suis également chargée de conservation des collections de mammifères, donc non pas des insectes comme Mariana, mais je suis également archéozoologue. Et pour une dernière présentation, pour être vraiment complète, je suis très impliquée dans la question des bases de données, puisque je dirige depuis fin 2011 une unité de service qui travaille sur la question des bases de données de recherche. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui se situe en fait à la frontière entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, avec les avantages et les inconvénients de se trouver à la frontière. Et ce travail est consacré à l'inventaire archéologique et de la faune et de la flore française, et son extension assez récente vers un projet qui est beaucoup plus ambitieux, qui va donc bien au-delà de la France, et donc un portage bioarchéologique global. Ce projet est porté depuis le début par le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, en partenariat avec de très nombreux autres partenaires, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et est réalisé en étroite collaboration avec Isabelle Bally, qui est ingénieure au CNRS. À partir de la fin des années 80, mais surtout à partir des années 90, l'important développement de l'archéologie préventive a généré la production d'un très très grand nombre de données, le plus souvent sous la forme de rapports de fouilles, d'études et d'analyses, qui sont conservés dans des dépôts d'archives, dans le meilleur des cas, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive au ministère de la Culture, mais le plus souvent dans des caves ou dans des greniers, et donc sont absolument inaccessibles. Le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de ces données pour toutes les formes de recherche et en particulier pour les spécialistes que sont les archéozoologues et les archéobotanistes qui avaient un vrai besoin d'accéder à de nouvelles données pour favoriser un renouvellement des problématiques de recherche en archéo-environnement, mais aussi pour les recherches culturelles et également pour la mise à disposition de nouvelles données. Très rapidement, la solution qui a été identifiée a été d'initier un inventaire de cette production qui n'était pas publiée, donc pas accessible, pour une très large part, et d'enregistrer les données qui se trouvent à l'intérieur de ces rapports en profitant des progrès techniques et technologiques qui existaient à l'époque, hein, on est bien il y a 30 ans, pour les conserver le plus longtemps possible en les mettant à la disposition de tous, y compris le grand public. L'idée était vraiment celle-ci. Le problème, c'est qu'une fois le constat posé, que s'est-il passé depuis 30 ans maintenant qu'a débuté le projet? C'est ce que je vais vous raconter avec toutes les évolutions et tous les grands changements, sachant que ce qui s'est passé, c'est d'un point de vue humain, car derrière la question des bases de données, du partage et de tout ce qu'on discute aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'humains, mais aussi informatiquement et techniquement parlant. Donc, tout a commencé en 1993 avec la publication d'un ouvrage par Frédéric Audouin-Rouzeau qui a publié Hommes et animaux en Europe, corpus de données archéologiques et historiques. Il s'agit d'une synthèse bibliographique principalement organisée pour permettre une recherche par espèce, par période chronologique, par mots-clés, par thème, mais qui présente bien évidemment des limites, les limites d'un ouvrage, d'une publication, pour tout ce qui concerne l'accroissement des données et le temps de mise à jour entre deux éditions. Donc, ça a été un ouvrage précurseur qui a posé beaucoup de questions, qui a répondu à pas mal d'attentes, mais qui a soulevé aussi beaucoup d'envie de mettre en lumière et d'organiser les données. Entre 1993 et 1999, un programme a fait suite au grand colloque international de Rio sur l'environnement, se posant la question, voilà, on a des données actuelles, on se pose des questions sur la planète, mais qu'en est-il finalement avant? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour les espèces avant? Et c'est dans ce cadre, pour mieux comprendre l'histoire des espèces, qu'a été mis en place au Muséum d'histoire naturelle un programme dédié à l'organisation d'un atlas diachronique des mammifères de France. Alors pourquoi ce programme a-t-il vu le jour au muséum? Parce qu'il y avait une vraie expertise de la part du secrétariat Faude-Flore dans ce domaine, dans la production d'atlas diachroniques de mammifères, d'oiseaux, enfin d'atlas en tout genre. Et donc il était assez intéressant de s'appuyer sur leurs connaissances et leur expertise, notamment sur la gestion des données. Donc le premier défi de ce programme a été de motiver un groupe de chercheurs pour partager leurs données. Vous savez tous que c'est quand même le principal et l'essentiel dans tous les programmes informatiques, mais c'est quand même le plus compliqué et le plus difficile. Et comme c'était les tout débuts de cette notion de partage des informations, de partage des données, ça a vraiment été ce qui a été le plus compliqué et en même temps le plus excitant, puisqu'à partir du moment où les gens ont accepté de participer au projet, ils étaient vraiment très investis. Mais le second problème, qui est venu juste après, c'était de prendre du temps pour remplir des formulaires. Car ce premier projet a été réalisé au travers de formulaires. Vous envoyez la première page. Et donc, ça demandait, en plus des activités quotidiennes, de prendre le temps de remplir ces formulaires qui, après, étaient saisis pour produire un certain nombre de cartes dont vous voyez un exemple sur la slide. Donc, sans entrer dans les détails, ça a permis quand même un certain nombre d'avancées, notamment commencer le travail et surtout de travailler sur plusieurs référentiels communs, essentiels, comme les sites archéologiques, donc un référentiel sur tous les sites archéologiques, où est-ce qu'ils se situent, leur nom, ce qui déjà peut être parfois très compliqué, la liste des espèces. On connaît les espèces actuelles, mais beaucoup d'espèces ont disparu. Il fallait donc faire également un référentiel d'espèces. Mais surtout, la question assez épineuse dans nos domaines, que sont les périodes chronologiques, aussi bien les datations absolues que les chronocultures. Des cartes ont été produites selon le modèle des atlas qui était en vigueur au muséum, et c'est-à-dire par pas de temps fixe. C'est ce que vous voyez sur la carte. Donc, ça peut être très utile pour une première approche, mais on voit bien que pour certaines espèces, ça n'avait absolument aucun sens et ça n'était absolument pas illustratif. Entre 2003 et 2007, un nouveau projet a été mis en place, dédié toujours aux données sur la faune. Donc, c'est le programme Inventaire Premier Traitement et mise à disposition des données archéologiques pour le CEN de la moitié nord de la France. Donc, vous voyez bien qu'on ne parle plus seulement des mammifères comme dans le programme précédent. Maintenant, on s'intéresse à toutes les données faunes, c'est-à-dire les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens, les invertébrés marins, mais également les parasites et les insectes. Donc, dans ce projet, toute la faune était prise en compte, toute la faune découverte en contexte archéologique. On a également réduit un petit peu les ambitions, puisqu'on s'est intéressé uniquement à la moitié nord de la France métropolitaine. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y avait majoritairement les équipes qui travaillaient en archéozoologie étaient situées dans le nord de la France. Et puis également, uniquement sur une période chronologique, l'Holocène, de façon à cibler un petit peu le propos. Ce projet a été essentiel et très important puisqu'il a permis un véritable partenariat interinstitutionnel entre de nombreuses institutions, dont l'INRAP, le CNRS et le ministère de la Culture, avec lequel une convention de partenariat a été signée et qui a facilité l'accès à l'ensemble des rapports papier produits par toute la recherche archéologique française, mais aussi de permettre d'envisager des liens avec la base de données Patriarche, qui est la base qui recense toutes les opérations archéologiques qui se déroulent en France. Donc, ça permettait d'accéder à un certain nombre de données sans avoir à les saisir dans cette base-là. Ça a également permis de réunir l'ensemble des archéozoologues français et pas seulement un petit groupe. Donc, on est vraiment passé à l'étape suivante. Il y a eu de vrais échanges sur ce projet. Et puis aussi, ça a permis de présenter le projet français au niveau international et en particulier la volonté qui était affichée dès le départ de lier les données archéologiques et les données actuelles. Et ça, ce projet-là était unique et reste unique à ce jour, c'est-à-dire de vouloir avoir au sein d'un même site, un même portail, d'avoir aussi bien des données archéologiques que des données actuelles. Il a surtout, ce projet, favorisé la prise de conscience qu'un tel travail ne devait être soutenu. Et c'est ainsi que j'ai été recrutée et que j'ai commencé à mettre en place l'architecture d'une base de données relationnelle au départ sous Access, qui représentait déjà une structure très complexe puisqu'il y avait déjà une quarantaine de tables, et les données d'espèces étant ensuite transférées sur un serveur Oracle, puisque toutes les bases du muséum sont sur un serveur Oracle, pour une mise en ligne. La base de données a surtout été reconnue comme une collection nationale du muséum, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de toute unité de recherche, ce qui lui garantit une certaine pérennité et également un respect des lois sur la propriété intellectuelle. Par exemple, toutes les données inédites de moins de 5 ans étaient dès 2003 protégées. On ne les mettait pas en ligne, elles étaient saisies mais pas mises à disposition. Et ça assure également une certaine traçabilité. À chaque donnée est associé le nom du producteur de la donnée et sa publication. Donc, un premier projet donc ACR Archéologie du territoire national, assez riche en événements. Et la suite n'a fait que conforter ce premier travail. Donc, l'histoire continue. Le projet BioArchéodate entre 2008 et 2011 a permis l'élargissement de la base aux données archéobotaniques et surtout a vu une chronologie beaucoup plus vaste, puisque alors que le programme précédent s'intéressait uniquement à l'Holocène, donc à une période très récente, le programme BioArchéodate permettait d'enregistrer les données depuis le Paléolithique supérieur. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'intégration des données de l'archéobotanique et cet élargissement, et qui a eu un impact direct, évidemment, sur les tables et les référentiels. Il a surtout vu ce projet, l'équipe grossir considérablement, si on peut dire, puisque de une personne jusqu'à présent, j'étais la seule personne porteuse du projet, nous sommes passés à deux, avec le recrutement d'un ingénieur base de données qui m'a beaucoup soutenue, puisque je ne suis pas informaticienne de formation. Et donc, Isabelle Bally a pris les choses en main, a abandonné quelque part Access pour passer sur un système beaucoup plus open source. On n'en parlait pas encore, mais c'est déjà important. Et a facilité les transferts des données sur le serveur Oracle du muséum pour avoir l'accès au travers de du site d'inventaire du patrimoine naturel. Depuis 2014, en fait, le projet BioArchéodate a beaucoup évolué et est devenu maintenant un groupement de recherche qui réunit pratiquement la totalité des institutions publiques et privées des chercheurs. Si la volonté, alors voilà, 35 institutions aujourd'hui, donc CNRS, Muséum, l'INRAP, des universités, des collectivités territoriales, des opérateurs privés, ce qui représente 21 unités de recherche, beaucoup de statutaires. Et si la volonté de ce consortium est bien de documenter l'histoire des interactions entre société, biodiversité et environnement, dans différents contextes environnementaux variés qu'offre la France, France métropolitaine, mais aussi à présent l'outre-mer. Donc ça, c'était également un des grands moments de ce GDR. Nous avons élargi la couverture géographique. Et sur des échelles de temps qui combinent à la fois des longues et des courtes durées, avec la possibilité d'étudier des changements climatiques sur des petites ampleurs au niveau de l'Holocène ou bien sur de grandes ampleurs pour le tardiglaciaire. Ce type d'approche ne peut se faire qu'en s'appuyant sur une base de données régulièrement complétée, enrichie par des données, mais aussi technologiquement plus fiable et facile d'accès. Les données sont aujourd'hui accessibles selon deux voies. Le site de l'inventaire du patrimoine naturel, donc vous voyez l'adresse inpn.mnhn.fr, ce site met à disposition des cartes de répartition d'espèces. Vous en voyez un exemple avec la carte du loup, sur laquelle la couleur des cercles correspond à une période. Chaque point est cliquable et vous avez plus d'informations. Ce système de cartes assez figé ne convient plus du tout aujourd'hui. Le portail lui-même a beaucoup évolué. Et il est absolument indispensable qu'on évolue de ce point de vue-là. Mais l'avantage d'accéder aux données d'espèces sur ce site, c'est que vous pouvez avoir donc les données pour le loup, aussi bien chronologiques, du paléolithique jusqu'au temps moderne, mais également la répartition du loup aujourd'hui, avec tous les textes réglementaires, toutes les informations que contient ce site, qui est un site extrêmement riche. L'autre moyen pour obtenir des informations, c'est par la demande de requête détaillée sur le site, sur l'interface des collections, CollHelper, qui est un site qui permet de faire des requêtes, donc à laquelle je réponds. Donc c'est un système quand même assez fermé, qui n'est pas très très facile, qui demande du temps et qui n'est plus satisfaisant aujourd'hui, qui l'a été longuement, mais qui demande à bouger. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que I2AF? En fait, c'est en près de 5 000 sites archéologiques qui représentent 56 000 contextes archéologiques, sachant qu'on avait pris le parti dès le départ d'enregistrer sur le plus petit élément contenant de la faune ou de la flore. C'est-à-dire que sur un site, s'il y a un enregistrement par trou de poteau, eh ben on va faire un enregistrement par trou de poteau. Car on sait très bien qu'il est plus facile de concaténer des données que de les séparer. Donc, c'est un travail véritablement de fourmi qui nous prend beaucoup de temps et qui est assez fastidieux. Mais vous pouvez constater qu'on a quand même aujourd'hui énormément de données puisqu'on a près de 140 000 données faune et 69 000 données flore qui représentent près de 5 000 références bibliographiques dont 85% appartiennent à ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des rapports d'études totalement inédits et des mémoires universitaires. Donc, quelque part, on a rempli et on a atteint notre objectif puisqu'on voulait absolument mettre à disposition de tous un maximum d'informations à laquelle on ne pouvait pas accéder. Alors, c'est beaucoup, mais c'est encore trop peu avec la production de données sur le terrain. Il faut pouvoir intégrer des données plus facilement. Ça, c'est une demande de la communauté, puisqu'aujourd'hui, on nous envoie les rapports et nous faisons la saisie. Donc, la chaîne est quand même compliquée et c'est assez fastidieux. La demande de consultation s'accroît considérablement, notamment de la part du grand public. On a beaucoup d'instituteurs, d'enseignants qui apprécient d'avoir des cartes pour illustrer des enseignements en archéologie, en histoire, et d'utiliser nos cartes. Et puis, on a la question assez cruciale des zones frontalières actuelles. Si on prend, par exemple, entre la France et la Belgique, ça n'a pas vraiment de sens historiquement et archéologiquement. Et on a vraiment besoin de dépasser les frontières et donc de quitter ce carcan du projet uniquement au niveau France. Il faut donc penser intégralement le système et proposer autre chose. Alors, cette réflexion intervient dans un changement profond d'environnement. Puisque fin 2011, l'unité de service Belize dédiée aux bases de données donc, a été créée. Et nous sommes donc implantés au muséum, vous l'avez compris. Et donc, on a une forte connexion avec l'unité Patrinat. Patrinat, c'est la descendante du secrétariat Faune Flore, notre premier partenaire en 1993. Et cette Patrinat diffuse donc, les données françaises au travers donc, de l'INPN, qui est le portail dont vous voyez la page à gauche. Et également, au niveau du muséum, nous avons ce qu'on appelle le nœud français du GBIF France, donc le Global Biodiversity Information Facility dont on vient de parler, qui diffuse de son côté les données mondiales, aussi bien des données de collection, mais également des données de recherche. Et nous sommes de plus en plus intéressés à nos données qui sortent du cadre français au travers du GBIF. Et Babies permet également d'avoir un hébergement encore plus sécurisé, puisque jusqu'à présent, on était vraiment hébergé au muséum, mais il y a une grande refonte du système informatique au niveau du muséum. Donc, on a une partie de nos données qui sont hébergées au centre de calcul de l'INDP3, qui est un institut du CNRS et qui est un des mésocentres informatiques centrales au niveau français et donc sur lequel on s'appuie beaucoup. Plus récemment également, on l'a évoqué en filigrane, mais pas complètement, on a le plan national pour la science ouverte qui a été donné en 2018 et qui nous impose de diffuser nos données le plus largement et le plus libre possible, tout en respectant évidemment les principes FAIR. Donc tout ce contexte d'élargissement, de besoins et d'environnement nous a amené à présenter un nouveau projet. Ah, oups. Non, je mets tout. Donc, le nouveau projet que vous voyez à l'écran, c'est un projet qui est en cours de développement et qui tient compte de tout ce que je viens de vous présenter, et y compris cette réflexion qui dure depuis 30 ans. L'objectif aujourd'hui est d'avoir une architecture partagée des inventaires faune et flore. Je dis bien des inventaires faune et flore et plus seulement de l'inventaire pour la France. D'avoir finalement un système de base régionale, que j'appelais régionale. Ça peut être aussi bien un inventaire pour la Belgique, pour l'Afrique, un inventaire en fonction des besoins. Ces bases étant toutes développées avec des solutions open source, systématiquement maintenant, tous les outils que nous utilisons, c'est de l'open source. Donc, c'est dans ce cas-là du PostgreSQL avec du PostGIS pour l'aspect SIG. L'intérêt également de Postgres, c'est qu'il y a des plugins R, et les chercheurs sont très friands de R, donc on a là quelque chose d'assez facile à utiliser. Donc, autant que possible, on va également s'appuyer sur des référentiels partagés, donc des thésaurus, voire même des ontologies. Donc, on a évidemment la taxonomie, hein, on est au muséum, donc on s'appuie sur Catalogue of Life, comme le GBIF, mais aussi TaxRef, qui est un thésaurus qui a été déployé dans le cadre de l'UMS Patrinat pour l'INPN. Et dans ce référentiel, nous ajoutons notamment les espèces disparues. Car Catalogue of Life est très bien pour les espèces actuelles, mais on a parfois des terminologies ou des problèmes de synonymes qu'on a évoqués juste dans la communication précédente, qui n'apparaissent pas et dont on a besoin. Donc, on va les intégrer les faire apparaître dans cette taxonomie. Pour la géographie, évidemment, on utilise tous les mêmes systèmes. Je vais plus insister sur une table, un référentiel qui est assez important, qui est le référentiel personne. Alors, personne, c'est aussi bien un archéologue, un spécialiste des poissons, enfin, c'est tous les noms de personnes. Cette table va rejoindre une réflexion globale qui est en cours au muséum dans le cadre du projet DataPoc. Alors, le projet DataPoc, il y a eu un premier DataPoc, une première version qui avait été labellisée et obtenue dans le cadre du projet Collecte Percé. Nous venons d'obtenir un deuxième projet qui est DataPoc 2.0. L'objectif de DataPoc, c'est de lier toutes les bases du muséum, que ce soit les collections, que ce soit les publications scientifiques, les bibliothèques, les archives, les observations, naturalistes, la recherche, par le nom des scientifiques. Et donc, ce projet va être lié directement à cela. Et bien évidemment, le nœud du problème, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est la table chronologie, le référentiel de chronologie. Alors, la table, jusqu'à présent, a été construite à partir de ce que j'ai trouvé dans la bibliographie et de ce que l'on m'a envoyé. Donc, c'est quelque chose de très détaillé et beaucoup plus que ce que propose Pactol, d'ailleurs. On a déjà échangé dans le cadre de différentes rencontres avec les personnes responsables de Pactol, mais il sera vraiment très important et indispensable de faire le lien entre les deux et d'enrichir, en fait, les Pactol avec ce qu'on a pu collecter dans la base archéozoologique et archéobotanique. D'un point de vue des métadonnées, les métadonnées de chaque projet seront accessibles sur un portail ouvert dans un géonetwork, dans le cadre d'Indoor, qui est un portail qui a été mis en place par Babies. L'objectif est que les données soient directement accessibles sur un portail ouvert, mais aussi au travers de portails thématiques, comme le futur pôle national de données de biodiversité, et pourquoi pas le portail de l'INRAP ou les autres partenaires. Comme vous pouvez le constater, il a fallu 30 ans pour en arriver là et il reste encore beaucoup de choses à construire. Je vous remercie.